Germaine de Staël, Delphine, partie 3, lettres 29 à 37 comprises. Lettre 29. Léonce à Delphine. J'ai peut-être mérité, par le trouble où m'ont jeté des sentiments trop irrésistibles, la cruelle lettre que vous m'écrivez. Cependant, je ne m'y attendais pas. Je vous ai parlé de ce qui manquait à mon bonheur, et vous me proposez de vous séparer de moi. Quelle faible idée vous ai-je donc donnée de mon amour? Avez-vous pu penser que j'existerais un instant après vous avoir perdu? Je ne sais si vous avez raison d'éprouver les regrets et les remords qui vous agitent. Je ne demande rien, je n'exige rien. Mais je veux seulement que vous lisiez dans mon âme. Aucune puissance humaine, aucun ordre de vous, ne pourrait me faire supporter la vie si je cessais de vous voir. C'est à vous d'examiner ce que vaut cette vie, quels intérêts peuvent l'emporter sur elle. Je ne murmurerai point contre votre décision, quand vous saurez clairement ce que vous prononcez. Je sens presque habituellement, à travers le bonheur dont je jouis près de toi, que la douleur n'est pas loin, qu'elle peut rentrer dans mon âme avec d'autant plus de force que des instants heureux l'ont suspendue. Delphine, j'ai 25 ans. Déjà, je commence à voir l'avenir comme une longue perspective qui doit se décolorer à mesure que l'on avance. Veux-tu que j'y renonce? Je le ferai sans beaucoup de peine, mais je te défends de jamais parler de séparation. Dis-moi, je crois ta mort nécessaire. Mon cœur n'en sera point révolté. Mais j'éprouve une sorte d'irritation contre toi quand tu peux me parler de ne plus se voir comme d'une existence possible. Mon ami, j'ai eu tort de t'entretenir de mes chagrins. Pardonne-moi mon égarement. En me présentant une idée horrible, tu m'as fait sentir combien j'étais insensé de me plaindre. Hélas, n'est-ce donc que par la douleur que la raison peut rentrer dans le cœur de l'homme? Et n'apprend-on que par elle à se reprocher des désirs trop ambitieux? Eh bien, ne me parle plus d'absence et je me tiens pour satisfait. Pourrais-je oublier quel charme je goûte en te confiant mes pensées les plus intimes, lorsque nous regardons ensemble les événements du monde comme nous étant étrangers, comme nous faisant spectacle de loin, et que, nous suffisant l'un à l'autre, les circonstances extérieures ne nous paraissent qu'un sujet d'observation. Ah, Delphine, j'accepterai avec toi l'immortalité sur cette terre. Les générations qui se succéderaient devant nous ne rempliraient mon âme que d'une douce tristesse. Je renouvellerais sans cesse avec toi mes sentiments et mes idées. Je revivrais dans chaque entretien. Mon ami, écartons de notre esprit toutes les inquiétudes que notre imagination pourrait exciter en nous. Il n'y a rien de réel au monde qu'aimer. Tout le reste disparaît ou change de forme et d'importance suivant notre disposition. Mais le sentiment ne peut être blessé sans que la vie elle-même ne soit attaquée. Il réglait, il inspirait tous les intérêts, toutes les actions. L'âme qu'il remplissait ne sait plus quelle route suivre, et, perdue dans le temps, toutes les heures ne lui présentent plus ni occupation, ni but, ni jouissance. Crois-moi, Delphine, il y a de la vertu dans l'amour. Il y en a même dans ce sacrifice entier de soi-même à son amant que tu condamnes avec tant de force. Mais comment peux-tu te croire coupable quand la pure innocence guide tes actions et ton cœur? Comment peux-tu rougir de toi lorsque je me sens pénétrée d'une admiration si profonde pour ton caractère et ta conduite? Juge de tes vertus comme de tes charmes, par l'amour que je ressens pour toi. Ce n'est pas ta beauté seule qui l'a fait naître, Des perfections morales m'ont inspiré cet enthousiasme qui, tour à tour, exalte et combat mes désirs. Ô mon ami, abjure ta lettre, sois fier d'être aimé et ne te repens pas de me consacrer ta vie. Lettre 30. Delphine à Mademoiselle d'Albémare, Bellerive, ce 2 avril 1791. Vous m'écrivez moins souvent, ma chère Louise, et vous évitez de me parler de Léonce. Il n'y a pas moins de tendresse dans vos lettres, mais un sentiment secret de blâme s'y laisse entrevoir. Ah, vous avez raison, je le mérite, ce blâme. J'ai perdu le moment du courageux sacrifice. Jugez vous-même à présent s'il est possible. Je vous envoie la dernière lettre que j'ai reçue de Léonce. Puis-je partir après ces menaces funestes? Le puis-je? Toutes les femmes qui ont aimé, je le sais, se sont crues dans une situation qui n'avait jamais existé jusqu'alors. Mais néanmoins, ne trouvez-vous pas que le sentiment de Léonce pour moi n'a point d'exemple au monde? Cette tendresse profonde dans une âme si forte, cet oubli de tout dans un caractère qui semblait devoir se livrer avec ardeur aux distinctions qu'il attendait dans la vie. Et quel homme était plus fait que Léonce pour aspirer à tous les genres de gloire? La noblesse de ses expressions, la dignité de ses regards m'en imposent quelquefois à moi-même. Je jouis de me sentir inférieur à lui. Jamais aucun triomphe n'a fait goûter autant de jouissance que j'en éprouve en abaissant mon caractère devant celui de Léonce. Qui pourrait mesurer tout ce qu'il est déjà et tout ce qu'il peut devenir? Par-delà les perfections que j'admire, j'en soupçonne de nouvelles qui me sont inconnues. Et lorsqu'il se sert des expressions les plus ardentes, quelque chose de contenu dans son accent, de voilé dans ses regards, me persuade qu'il garde en lui-même des sentiments plus profonds encore que ceux qu'il consent à m'exprimer. Léonce exerce sur moi la toute-puissance que lui donne à la fois son esprit, son caractère et son amour. Il me semble que je suis née pour lui obéir autant que pour l'adorer. Seule, je me reproche la passion qu'il m'inspire. Mais en sa présence, le mouvement involontaire de mon âme est de me croire coupable quand j'ai pu le rendre malheureux. Il me semble que son visage, que sa voix, que ses paroles portent l'empreinte de la vertu même et m'en dictent les lois. Ces récompenses célestes qu'on éprouve au fond de son cœur quand on se livre à quelque généreux dessein, je crois les goûter quand il me parle. Et lorsque, dans un noble transport, il me dit qu'il faut immoler sa vie à l'amour, je rougirais de moi-même si je ne partageais pas son enthousiasme. Ne craignez pas cependant que son empire sur moi me rende criminel. Le même sentiment qui me soumet à ses volontés me défend contre la honte. Léonce commande à mon sort parce que j'admire son caractère, parce qu'il réunit toutes les vertus que vous m'avez appris à chérir. Je ne puis le quitter s'il ne consent pas lui-même à ce sacrifice. Mais lorsque, oubliant la différence de nos devoirs, il veut me faire manquer au mien, je m'arme contre lui de ses qualités mêmes. Et, certaine qu'il ne sacrifierait pas son honneur à l'amour, le désir de l'égaler m'inspire le courage de lui résister. Ah, Louise, c'est bien peu, sans doute, que de conserver une dernière vertu quand on a déjà bravé tant d'égards, tant de devoirs, qui me paraissaient, jadis, aussi sacrés que ceux que je respecte encore. Mais ne gardez pas sur ma situation ce silence cruel. Ne croyez pas qu'il ne soit plus temps de me donner des conseils, que je n'en puisse recevoir aucun. Une fois, peut-être, je les suivrai, je n'en sais rien. Mais aimez-moi toujours. Hélas, notre situation peut à chaque instant être bouleversée. Je partirais si Mathilde, découvrant nos sentiments, désirait que je m'éloignasse. je partirais si Léon se cessait un seul jour de me respecter, ou si l'opinion me poursuivait au point de le rendre malheureux lui-même. Ah, de combien de manières prévues et imprévues le bonheur, dont je ne jouis qu'en tremblant, ne peut-il pas m'être arraché? Louise, ne vous hâtez donc pas de prendre avec moi ce ton de froideur et de réserve qu'il ne faut adresser qu'aux amis dont le sort est trop prospère. N'oubliez pas la pitié, je vous la demanderai peut-être bientôt. Déjà vous m'inquiétez en m'annonçant que M. de Valorbe, ayant perdu sa mère, se prépare à partir pour Paris. Il faudra que j'instruise Léonce, et de ses sentiments pour moi, et de ses droits à ma reconnaissance. Mais de quelque manière que je les lui fasse connaître, sa présence lui sera toujours importune. Ne pouvez-vous donc pas détourner M. de Valorbe de venir ici? Vous savez que sous des formes timides et contraintes, il a un amour-propre très sombre et très amer, et que tout ce qu'il dit de son dégoût de la vie vient uniquement de ce qu'il a une opinion de lui qu'il ne peut faire partager aux autres. Il a plus d'esprit qu'il n'en sait montrer, ce qui est précisément le contraire de ce qu'il faut pour réussir à Paris, où l'on a le temps de découvrir le mérite de personne. Quand il ne devinerait pas mes véritables sentiments, il suffirait de la supériorité de Léonce pour lui donner de l'humeur. Et que de malheur ne peut-il pas en arriver? Essayez de lui persuader, ma chère Louise, que rien ne pourra jamais me décider à me remarier. Je ne puis vous exprimer assez combien il me sera pénible de revoir M. de Valorbe s'il me faut supporter qu'il me parle encore de son amour. D'ailleurs, ma société est maintenant si resserrée qu'en y admettant M. de Valorbe, je m'expose à faire croire qu'il m'intéresse. Je ne vois habituellement que M. et Mme de Lébancey et quelquefois, mais plus rarement, M. et Mme de Belmont. L'esprit de M. de Lébancey me plaît extrêmement, sa conversation m'est chaque jour plus agréable. Il n'a de prévention ni de parti pris sur rien à l'avance, et sa raison lui sert pour tout examiner. La société d'un homme de ce genre vous promet toujours de la sécurité et de l'intérêt. On ne craint point de lui confier sa pensée. L'on est sûr de la confirmer ou de la rectifier en l'écoutant. Sa femme a moins d'esprit et surtout moins de calme que lui. Sa situation dans la société la rend malheureuse sans qu'elle consente même à se l'avouer. Ce chagrin est fort augmenté par une inquiétude très naturelle et très vive qu'elle éprouve dans ce moment. Elle est prête d'accoucher et elle a raison de craindre que sa grand-mère et sa tante, qui sont toutes les deux très dévotes, ne veuillent pas reconnaître son enfant. Elle m'a dit, sans vouloir s'expliquer davantage, qu'elle avait un service à me demander auprès de ses parents qui sont un peu les miens. Je serais trop heureuse de le lui rendre. Je voudrais lui faire quelque bien. Elle est si souvent honteuse de ses peines et mécontente de sa sensibilité dont les jouissances ne lui font pas oublier tout le reste. Elle craint que son mari ne s'aperçoive de ses chagrins et reprend un air gai chaque fois qu'il la regarde. Madame de Belmont, avec un mari aveugle et ruiné, jouit d'une félicité bien plus pure. Elle ne vit pas plus dans le monde que Madame de Lébancey, mais elle n'a pas l'idée qu'elle en soit écartée. Elle choisit la solitude, et la pauvre Élise y est condamnée. Je la plains parce qu'elle souffre, car à sa place je serais parfaitement heureuse. Elle se croit, et a raison de se croire innocente. Elle a épousé ce qu'elle aime, et l'opinion la tourmente. Quelle faiblesse! Adieu, ma sœur, ne m'abandonnez pas. Reprenons l'habitude de nous écrire chaque jour tout ce que nous éprouvons. Je ne me crois pas un sentiment dont votre cœur indulgent et tendre ne puisse accepter la confidence. Lettre 31. Léonce à Delphine. Le neveu de Madame du Marsay est menacé de perdre son régiment pour avoir montré, dit-on, une opinion contraire à la Révolution. Monsieur de Lébincé a beaucoup de crédit auprès des députés démocrates de l'Assemblée constituante. Madame du Marsay est venue me demander de vous engager à le prier de sauver son neveu. Si Monsieur d'Orsan perdait son régiment, il manquerait d'un mariage riche, qui, dans son état de fortune, lui est indispensablement nécessaire. Je sais quelle a été la conduite de Madame du Marsay envers vous, envers moi, mais je trouve plaisir à vous donner l'occasion d'une vengeance qui satisfait assez bien la fierté. Car ce n'est point par bonté pure qu'on rend service à ceux dont on a raison de se plaindre. On jouit de ce qu'il s'humilie en vous sollicitant, et l'on est bien aise de se donner le droit de dédaigner ce qui avait excité notre ressentiment. Cette raison, d'ailleurs, n'est pas la seule qui me fasse désirer que vous soyez utile à Madame du Marsay. Vous savez, quoique nous en parlions rarement ensemble, combien les querelles politiques s'aigrissent à présent. On a dit assez souvent, et Madame du Marsay a singulièrement contribué à le répandre, que vous étiez très enthousiaste des principes de la Révolution française. Il me semble donc qu'il vous convient particulièrement d'être utile à ses ennemis. Cette conduite peut faire tomber ce qu'on a dit contre vous à cet égard. En voyant le cours que prennent les événements politiques de France, je souhaite tous les jours plus que l'on ne vous soupçonne pas de vous intéresser au succès de ceux qui les dirigent. Vous avez exigé de moi, mon ami, que j'accompagnasse Mathilde à Mondeville. J'aurais plutôt obtenu d'elle que de vous la permission de m'en dispenser. Savez-vous que ce voyage durera plus d'une semaine? Avez-vous songé à ce qu'il m'en coûte de vous obéir? Toutes les peines de l'absence, oubliées depuis 3 mois, se sont représentées à mon souvenir. Je vous en prie, soyez fidèle à la promesse que vous m'avez faite de m'écrire exactement. Je sais d'avance les journées qui m'attendent. Elles n'auraient point de but ni d'espérance si je ne devais pas recevoir une lettre de vous. Shakespeare a dit que la vie était ennuyeuse comme un conte répété 2 fois. Ah, combien cela est vrai des moments passés loin de Delphine. Quel fastidieux retour des mêmes ennuis et des mêmes peines. Adieu, mon ami. J'éprouve une tristesse profonde, et quand je m'interroge sur la cause de cette tristesse, je sens que ce sont ces 8 jours qui me voilent le reste de l'avenir. Et vous osiez penser à me quitter. N'en parlons plus. Cette idée, je l'espère, ne vous est jamais venue sérieusement. Vous vous en êtes servi pour m'effrayer de mes égarements, et peut-être avez-vous réussi. Adieu. Lettre 32. Delphine à Léonce. Monsieur de Lébincé, quelques heures après avoir reçu ma lettre, a terminé l'affaire de Monsieur d'Orsan. Vous pouvez, mon cher Léonce, en instruire Madame du Marsay. Je ne me soucie pas le moins du monde d'en avoir le mérite auprès d'elle, car il serait usurpé. Je l'ai servi parce que vous le désiriez, et non par les motifs que vous m'avez présentés. Sans doute, je pense comme vous, qu'il faut être utile même à ses ennemis quand on en a la puissance. Mais comme les moyens de rendre service sont très bornés pour les particuliers, je ne m'occupe du faire du bien à mes ennemis que quand il ne me reste pas un seul de mes amis qui ait besoin de moi. C'est un plaisir d'amour-propre que de condamner à la reconnaissance les personnes dont on a de justes raisons de se plaindre. Il ne faut jamais compter parmi les bonnes actions les jouissances de son orgueil. Quant à l'intérêt que je puis avoir à me faire aimer de ceux qui n'ont pas les mêmes opinions que moi, je n'y mettrai pas le moindre prix sans vous. Je déteste les haines de parti, j'en suis incapable. Et quoique j'aime vivement et sincèrement la liberté, je ne me suis point livré à cet enthousiasme parce qu'il m'aurait lancé au milieu de passions qui ne conviennent point à une femme. Mais comme je ne veux en aucune manière désavouer mes opinions, je me sentirais plutôt de l'éloignement que du goût pour un service qui aurait l'air d'une expiation. Je dirais plus, il n'atteindrait pas son but. Toutes les fois qu'on mêle un calcul à une action honnête, le calcul ne réussit pas. Je veux donc vous transcrire à ce sujet un passage de la lettre que m'a répondu M. de Lébancé. Il faut, me dit-il, se dévouer, quand on le peut, à diminuer les malheurs sans nombre qu'entraîne une révolution, et qui pèsent davantage encore sur les personnes opposées à cette révolution même. Mais il ne faut pas compter en général sur le souvenir qu'elles en conserveront. Je me suis donné, il y a 2 mois, beaucoup de peine pour faire sortir de prison un homme que je ne connais pas, mais qui aurait risqué de perdre la vie pour un fait politique dont il était accusé. J'ai appris hier qu'il disait partout que j'étais un homme d'une activité très dangereuse. J'ai chargé un de mes amis de lui rappeler que sans cette prétendue activité il n'existerait plus, et qu'elle devait au moins trouver grâce à ses yeux. Un tel désappointement m'est fort égal à moi qui suis tout à fait indifférent à ce que disent et pensent les personnes que je n'aime pas. Seulement, je vous cite cet exemple pour vous prouver qu'un homme de parti est ingénieux à découvrir un moyen de haïr à son aise celui qui lui a fait du bien, lorsqu'il n'est pas de la même opinion que lui. Et peut-être arrive-t-il souvent que l'on invente, pour se dégager d'une reconnaissance pénible, 1000 calomnies auxquelles on n'aurait pas pensé si l'on était resté tout à fait étranger l'un à l'autre. M. de Lépensé va peut-être un peu loin en s'exprimant ainsi. Mais j'ai voulu que vous sussiez bien, cher Léonce, que j'avais servi Mme du Marsay pour vous plaire et sans aucun autre intérêt. Il m'a paru que dans cette affaire, M. de Lébancé accordait une grande influence à votre nom. Je crois qu'il serait bien aise de se lier avec vous. Voulez-vous qu'à votre retour je vous réunisse ensemble à dîner chez moi? Voilà une lettre, mon ami, qui ne contient rien que des affaires. Vous l'avez voulu en m'occupant de Mme du Marsay. J'aurais pu vous entretenir, cependant, de la douleur que me cause votre absence, quand il me faut passer la fin du jour seul. Dans ces mêmes lieux, j'ai goûté le bonheur de vous voir. Je me livre aux réflexions les plus cruelles. Hélas, ceux qui n'ont rien à se reprocher supportent doucement une séparation momentanée. Mais quand on est mécontent de soi, l'on ne peut se faire illusion qu'en présence de ce qu'on aime. Gardez-vous cependant d'affliger Mathilde en revenant avant elle. Songez que pour calmer mes remords, j'ai besoin de me dire sans cesse que mes sentiments ne nuisent point au bonheur de Mathilde, et qu'à ma prière même, vous lui rendrez souvent des soins que peut-être sans moi vous négligeriez. Lettre 33. Léonce à Delphine. Mondeville, ce 20 avril. Avant de quitter Mondeville, mon ami, je veux m'expliquer avec vous sur un mot de votre dernière lettre qu'il exige, car je ne puis souffrir d'employer des moments que nous passons ensemble à discuter les intérêts de la vie. Je ferai toujours tout ce que vous désirez, mais si vous ne l'exigez pas, je préfère ne pas me lier avec M. de Lébancé. Je puis, au milieu des événements actuels, me trouver engagé, quoiqu'à regret, dans une guerre civile. Et certainement je servirai alors dans un parti contraire à celui de M. de Lébancé. Je vous l'ai dit plusieurs fois, les querelles politiques de ce moment-ci n'excite point en moi de colère. Mon esprit conçoit très bien les motifs qui peuvent déterminer les défenseurs de la Révolution. Mais je ne crois pas qu'il convienne à un homme de mon nom de s'unir à ceux qui veulent détruire la noblesse. J'aurais l'air en les secondant, ou d'être dupe, ce qui est toujours ridicule, ou de me ranger par calcul du parti de la force, et je déteste la force, alors même qu'elle appuie la raison. Si j'avais le malheur d'être l'avis du plus fort, je me tairais. D'autres sentiments encore doivent me décider dans la circonstance présente. Je conviens que, de moi-même, je n'aurais pas attaché le point d'honneur au maintien des privilèges de la noblesse. Mais, puisqu'il y a de vieilles têtes de gentilshommes qui ont décidé que cela devait être ainsi, c'en est assez pour que je ne puisse pas supporter l'idée de passer pour démocrate. Et dussé-je avoir mille fois raison en m'expliquant, je ne veux pas même qu'une explication soit nécessaire dans tout ce qui tient à mon respect pour mes ancêtres et aux devoirs qu'ils m'ont transmis. Si j'étais un homme de lettres, je chercherais en conscience les vérités philosophiques qui seront peut-être un jour généralement reconnues. Mais quand on a un caractère qui supporte impatiemment le blâme, il ne faut pas s'exposer à celui de ses contemporains, ni des personnes de sa classe. La gloire même qu'on pourrait acquérir dans la prospérité ne saurait en dédommager. Certes, il n'est pas question de gloire maintenant dans le parti de la liberté, car les moyens employés pour arriver à ce but sont tellement condamnables qu'ils nuisent aux individus quand il se pourrait, ce que je ne crois pas, qu'ils servissent la cause. Vous aimez la liberté par un sentiment généreux, romanesque même, pour ainsi dire, puisqu'il se rapporte à des institutions politiques. Votre imagination a décoré ces institutions de tous les souvenirs historiques qui peuvent exciter l'enthousiasme. Vous aimez la liberté comme la poésie, comme la religion, comme tout ce qui peut ennoblir et exalter l'humanité. Et les idées que l'on croit devoir être étrangères aux femmes se concilient parfaitement avec votre aimable nature et semblent, quand vous les développez, intimement unies à la fierté et à la délicatesse de votre âme. Cependant, je suis toujours affligée quand on vous cite pour aimer la Révolution. Il me semble qu'une femme ne saurait avoir trop d'aristocratie dans ses opinions comme dans le choix de sa société. Et tout ce qui peut établir une distance de plus me paraît convenir davantage à votre sexe et à votre rang. Il me semble aussi qu'il vous sied bien d'être toujours du parti des victimes. Enfin, c'est de tous les motifs celui qui influe le plus sur moi. On se fait trop d'ennemis dans la société où nous vivons, en adoptant les opinions politiques qui dominent aujourd'hui. Et je crains toujours que vous ne souffriez une fois de la malveillance qu'elles excitent. N'ai-je pas trop abusé, ma Delphine, de la déférence que vous daignez avoir pour moi en vous donnant presque des conseils? Mais vous m'inspirez, je ne sais quel mélange, quelle réunion parfaite de tous les sentiments que le cœur peut éprouver. Je voudrais être à la fois votre protecteur et votre amant. Je voudrais vous diriger et vous admirer en même temps. Il me semble que je suis appelée à conduire dans le monde un ange qui n'en connaît pas encore parfaitement la route et se laisse guider sur la terre par le mortel qu'il adore, loin des pièges inconnus, dans le ciel dont il descend. Adieu. Déjà je suis délivrée de 3 jours sur les 10 qu'il faut passer loin de vous. Lettre 34. Delphine à Léonce. Belle-Rive, ce 24 avril. Je ne veux point combattre vos raisonnements. Mon respect pour vos qualités et pour vos défauts même m'interdit d'insister jamais, dès que vous croyez votre honneur intéressé le moins du monde dans une opinion quelconque. Mais quand vous prononcez l'horrible mot de guerre civile, puis-je ne pas m'affliger profondément du peu d'importance que vous attachez à la conviction individuelle dans les questions politiques? Vous parlez de se décider entre les deux parties comme si c'était une affaire de choix, comme si l'on n'était pas invinciblement entraîné dans l'un ou l'autre sens par sa raison et par son âme. Je n'ai point d'autre destinée que celle de vous plaire. Je n'en veux jamais d'autre. Vous êtes donc certain que j'éviterai avec soin de manifester une opinion que vous ne voulez pas que je témoigne. Mais si j'étais un homme, il me serait aussi impossible de ne pas aimer la liberté, de ne pas la servir, que de fermer mon cœur à la générosité, à l'amitié, à tous les sentiments les plus vrais et les plus purs. Ce ne sont pas seulement les lumières de la philosophie qui font adopter de semblables idées. Il s'y mêle un enthousiasme généreux qui s'empare de vous, comme toutes les passions nobles et fières, et vous domine impérieusement. Vous éprouveriez cette impression si les opinions de votre mère et celles des grands seigneurs espagnols, avec qui vous avez vécu dès votre enfance, ne vous avaient point inspiré pour la défense de la noblesse les sentiments que vous deviez consacrer peut-être à la dignité et à l'indépendance de la nation entière. Mais c'est assez vous parler de votre manière de voir. Avant tout, il s'agit de votre conduite. Quoi, Léonce ? Seriez-vous capable de faire la guerre à vos concitoyens en faveur d'une cause dont vous n'êtes pas réellement enthousiaste ? Je vous en donne pour preuve l'objection même que vous faites contre le parti qui soutient la révolution. Il est le plus fort, dites-vous, et je ne veux pas être soupçonné de céder à la force. Et ne craignez-vous pas aussi qu'on ne vous accuse d'être déterminé par votre intérêt personnel en défendant les privilèges de la noblesse? Croyez-moi, quelle que soit l'opinion que l'on embrasse, les ennemis trouvent aisément l'art de blesser la fierté par les motifs qu'ils vous supposent. Il faut en revenir aux lumières de son esprit et de sa conscience. Nos adversaires, quoi que l'on fasse, s'efforcent toujours de ternir l'éclat de nos sentiments les plus purs. Ce qui est surtout impossible, c'est de concilier entièrement en sa faveur l'opinion générale. Lorsqu'un fanatisme quelconque divise nécessairement la société en deux bandes opposées. Tout vous prouvera ce que j'ai souvent osé vous dire, c'est qu'on ne peut jamais être sûr de sa conduite ni de son bonheur quand on fait dépendre l'une et l'autre des jugements des hommes. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai voulu vous démontrer, c'est que vous n'étiez pas profondément persuadé de la justice de la cause que vous voulez soutenir, et qu'ainsi vous n'avez pas le droit d'exposer une goutte de votre sang, de ce sang qui est le mien, pour une opinion que vous avez jugée convenable, mais qu'une conviction vive ne vous a point inspirée. Votre devoir, dans votre manière de penser, c'est l'inaction politique, et tout mon bonheur tient à l'accomplissement de ce devoir. Ah, mon ami, renoncez à ces passions qui paraissent factices auprès de la seule naturelle, de la seule qui libère l'âme tout entière et change comme par une sorte d'enchantement tout ce qu'on voit en une source d'émotions heureuses. Soumettez les intérêts de convention à la puissance de l'amour. Oubliez la destinée des empires pour la nôtre. L'égoïsme est permis aux âmes sensibles, et qui se concentre dans ses affections peut, sans remords, se détacher du reste du monde. Lettre 35. Delphine à Léonce, Bellerive, ce 26 avril. Mon ami, je ne veux faire aucune démarche sans vous consulter, hélas. Je sais trop ce qu'il m'en a coûté. Madame de Lébancé est accouchée il y a 8 jours d'un fils. J'ai été chez elle ce matin, et je m'attendais à la trouver dans le plus heureux moment de sa vie. Mais les fortes raisons qu'elle a de craindre que sa famille ne veuille pas reconnaître son enfant changent en désespoir les pures jouissances de la maternité. Elle veut faire une démarche simple mais noble, aller elle-même chez sa grand-mère et chez sa tante pour mettre son fils à leurs pieds. Mais elle désire que je l'accompagne. Ces vieilles dames sont de mes parentes, et, comme je leur ai toujours montré des égards, elles sont bien disposées pour moi. Madame de Lébancé m'a fait cette demande en tremblant, et j'ai vu, par l'état où elle était, en me l'adressant, quelle importance elle y attachait. Un mouvement tout à fait involontaire m'a entraîné à lui dire que j'y consentais. Je la voyais souffrir et j'avais besoin de la soulager. L'instant d'après, j'ai cru découvrir, en y réfléchissant, un rapport éloigné entre la résolution prompte que je venais de prendre et ma facile condescendance pour Thérèse. À ce souvenir, j'ai frissonné. Mais il m'a été impossible de détromper Madame de Lébancé d'un espoir qu'elle avait saisi si vivement qu'il était presque devenu son droit. Et j'ai continué à lui parler de choses indifférentes pour qu'elle ne crût pas que je m'occupais de la promesse que je lui avais faite. En rentrant chez moi, cependant, j'ai résolu de soumettre cette promesse elle-même à votre volonté. Répondez-moi positivement avant votre retour. Je ne vous cache pas qu'il m'en coûterait extrêmement de manquer de générosité envers Madame de Lébancé et de perdre dans l'estime de son mari que je considère beaucoup. Il vient de mettre une grâce parfaite à terminer l'affaire de Madame du Marsay que je lui avais recommandé en votre nom. Me montrer froide et égoïste, quand je suis naturellement le contraire, serait de tous les sacrifices le plus pénible pour moi. C'est presque refuser un bienfait du ciel que d'éloigner l'occasion simple qui se présente de rendre un service essentiel, de causer un grand bonheur. Néanmoins, jusqu'à la sympathie même, jusqu'à ce sentiment que je n'ai jamais repoussé, je suis prête à tout vous immoler. Si vous exigez que je me dégage avec monsieur et madame de Lébancé, je le ferai. Comment se peut-il faire qu'il vous échappe encore des plaintes amères dans votre dernière lettre? Cette lettre ne s'est pas trouvée. Léonce, notre bonheur se conservera-t-il? Je crois avoir approché l'orage qui nous menace. Ah, que je meure avant qu'il n'éclate! Lettre 36. Léonce à Delphine. Mondeville, ce 29 avril. Je ne veux pas contrarier les mouvements généreux de votre âme, ma noble amie. J'espère qu'il ne résultera aucun mal de cette démarche. J'aurais désiré que Madame de Lébancé vous l'eût épargnée, mais puisque vous avez donné votre parole, je pense comme vous qu'il n'existe plus aucun moyen honorable de vous en dégager. Adieu, ma Delphine. Malgré mes instances, Madame de Vandeville ne veut partir que dans 4 jours. Je serai à Bellerive seulement le 4 mai, à 7 heures. Lettre 37. Madame de Lébancé à Madame d'Albémar, Cernay, ce 2 mai 1791. Vous m'avez rendu, madame, le bonheur que j'étais menacée de perdre sans retour. Je ne pouvais supporter l'idée que mon fils ne serait pas reconnu dans ma famille, et j'avais épuisé pour y réussir tous les moyens qu'un caractère assez fier pouvait me suggérer. Vous avez paru et tout a été changé. La vieillesse, les préjugés, l'embarras d'une longue injustice, rien n'a pu lutter contre la puissance irrésistible de votre éloquence et de la vraie sensibilité qui vous inspirait. Je n'oublierai jamais cet instant où, vous mettant à genoux devant ma grand-mère pour lui présenter mon enfant, elle a posé ses mains desséchées sur les cheveux charmants qui couvraient votre tête et vous a bénie comme sa fille. Ah, que je voudrais vous voir heureuse! Les prières de tous ceux que votre bonté a protégés ne seront-elles donc jamais efficaces? Monsieur de Lémincey est profondément reconnaissant de ce que vous venez de faire pour nous. Il ne parle de vous depuis qu'il vous connaît qu'avec l'admiration la plus parfaite. Permettez-moi de vous le dire, nous ne passons pas un jour sans nous affliger ensemble de ce que Léon, c'est l'époux de Mathilde. Si M. de Mondeauville, au milieu des événements que prépare la Révolution, pouvait un jour trouver, comme moi, le moyen de rompre une union si mal assortie, mon mari serait bien ardent à le lui conseiller. Mais à quoi servent nos inutiles vœux? Qu'ils vous prouvent seulement combien nous nous occupons de vous. Pensez, avec quelque douceur, madame, au ménage de Cernay. Vous lui avez rendu la paix intérieure. Ce bien, qui devait vous consoler de la perte de tous les autres, nous était ravi sans vous.